Merci d'avoir répondu à cette invitation des amis de la base où j'y suis et du club de la presse. Nous avons donc le plaisir de recevoir Daniel Mermet qui va nous parler de son projet dans un instant. Mais d'abord, Gérard, tu vas peut-être nous rappeler les circonstances de cette réunion.
Alors, merci aussi d'être nombreux ce soir. Donc, les amis de la base où j'y suis de Lille existent depuis 10 années maintenant. Il est vrai qu'on a beaucoup réfléchi depuis septembre avec la suppression de l'émission. Et puis, lors d'une dernière réunion, j'avais proposé de faire venir Daniel pour présenter son futur projet. Voilà. Ça a marché puisqu'on est tous réunis ce soir. Et je suis fier et je remercie ce travail d'équipe entre les amis de la base où j'y suis, le club de la presse et l'ESJ. C'est un beau partenariat qui, moi, me fait très plaisir et qui est très constructif et qui nous permet évidemment de recevoir Daniel ce soir. Voilà.
Alors moi, j'ai fait appel à mes souvenirs avant de te donner la parole, Daniel. Là-bas, si j'y suis, là-bas, si j'y suis. Allons voir là-bas si nous y sommes. Nous vous y emmenons, nous vous racontons. Comme si vous y étiez. Et puis, vous nous direz, vous nous raconterez aussi comment c'est chez vous. Comme si nous y étions, ce que vous faites, ce que vous aimeriez que l'on fasse, ce que vous aimeriez faire. Alors où? C'est où là-bas? C'est au bout de cette rue. La vôtre, la mienne, la leur. Le bout de la rue où il se passe forcément quelque chose. Là-bas, c'est aussi cette maternité qui va peut-être fermer. Mais c'est cette maternité où cette maman va donner naissance à un bébé, c'est-à-dire à quelqu'un. Nous allons vous raconter cette venue au monde, cette naissance de ce bébé, comme si vous y étiez. Nous allons vous parler de ce bébé-là, nous allons vous parler de cette maman-là. Là-bas, c'est l'usine, c'est l'atelier, c'est l'escarreau de mine, c'est le bistrot où l'on a tant à dire, et où l'on dit tant et tant, et pas seulement des brèves d'ailleurs. Là-bas, c'est ce décor d'un roman de Dostoïevski, c'est le mur d'enceinte d'une prison, ce sont des mains qui se tendent pour envoyer ou recevoir des messages à la compagne ou de la compagne, à la mer ou de la mer, plus loin, là-bas, tout en bas. Là-bas, c'est la maison où habite ce médecin en retraite, un médecin qui a fait des expériences, c'était il y a bien longtemps, il faisait des expériences pour les nazis. Il vous reçoit bien, d'ailleurs il est chaleureux, mais il ne comprend pas pourquoi vous avez cette haine et ce regard effaré. Qu'est-ce qu'il a donc fait de si mal, ce bon docteur? C'est vrai ça, les tziganes qui lui ont servi de cobaye n'étaient que le rebut de la société. Ils ont fini par faire quelque chose de bien, quoi, tout de même, enfin. Là-bas, c'est aussi un rendez-vous avec Noam Chomsky, c'est un petit tour au creux d'une soirée mondaine où des riches parlent microcrédit pour les pauvres. C'est quoi les pauvres déjà, au fait, c'est quoi? Là-bas, c'est là où l'on rencontre celles et ceux que l'on ne voit jamais ou pas assez, ceux dont on ne parle pas suffisamment ou pas du tout dans la matinale de France Inter, les gens de peu. C'est un peu tout cela là-bas si j'y suis, l'émission critique et engagée de Daniel Mermet et de son équipe. En fait, c'était parce que depuis juin dernier, la directrice de France Inter a tranché. 25 ans, ça suffit, on arrête, plus rien à voir. Et cette fois, plus question de pétition, d'appel à l'auditeur modeste et génial. Le syndicat des journalistes, le SNJ, l'a bien compris quand il dit « Chirac a tenté, Sarkozy en a rêvé, puis a essayé. Ce serait un comble qu'Hollande réussisse à le faire. » Je ne sais pas si c'est Hollande, mais en tout cas, ça a marché, il l'a fait. Enfin, pas vraiment. Le dernier mot n'est pas dit. Notre facture de Ruffin, pas très loin d'ici, un peu plus bas. Peut-être tranquille, la Crimette peut se rassurer, les modestes et généreux auditeurs aussi. Mermet l'a dit, il est venu pour le redire. Là-bas va redémarrer, je l'espère bien, dans quelques semaines sur le net. Et il sera en principe, si j'ai bien compris le projet que tu vas nous détailler tout à l'heure, bien pire que ce que l'on connaissait jusqu'à présent.
Hey, c'est très sympa, merci. C'est très, très sympa.
Waouh! C'est le micro, ça? C'est à moi?
Oui, hey, c'est bien. Hey, je demande toujours pour pas, sans démagogie aucune, j'aime bien venir à Lille. Là, vraiment, j'ai reçu merveilleusement. C'est sympa comme tout ton texte.
Merci.
Merci beaucoup. Je suis ému aussi qu'on parle du docteur Munch. C'est Hans Munch dont je parle.
Oui, oui.
C'est ça. Et ça a été effectivement un grand moment de la base où j'y suis. C'était ce médecin nazi d'Auschwitz, qui était au laboratoire Raiko et qui vivait tranquillement à Rosshaupten en Bavière, dans ce que j'avais appelé un bonheur crémeux, et qui vivait là tout à fait tranquille au milieu des habitants qui le prenaient pour le bon docteur Munch. Et on avait mis beaucoup beaucoup de temps avant que 3 jours d'entretien pour qu'il arrive à dire ce que tu évoques là, effectivement, à quel point il était normal, là, pour ce qui concerne les Tziganes, de s'en débarrasser, parce que ils étaient des gens malpropres. Ce qui s'était passé, quand même, à l'époque, quand on avait diffusé ce reportage-là, c'est qu'on avait été étonné du manque de réaction des auditeurs. Et le lendemain, j'avais engueulé les auditeurs. J'avais dit, vous rendez compte de ce qu'on a. On vous a fait entendre hier, on va vous le faire réentendre. J'ai jamais fait un truc pareil, enfin, d'engueuler les gens, parce qu'ils n'ont pas réagi suffisamment. Et là, ça a été... Mais merci d'évoquer tout ça. Voilà. Et ça vient dans toute une suite de messages très nombreux qu'on a reçus après la suppression des missions, pas seulement les pétitions, 170 000 signatures à ces pétitions, mais ce qui nous a le plus surpris, ému, étonné, ça a été des milliers de messages qu'on a reçus d'auditeurs et qui nous ont... On n'avait pas bien mesuré ce qu'on avait fait, on n'avait pas très bien compris ce qu'on avait fait, jusqu'où ça allait. Jusqu'où ça avait été, et ça nous a conforté dans une idée, mais là on l'avait presque, on pouvait la toucher, en tous les cas on pouvait la lire, sur le fait que la radio ça se fait de chaque côté du transistor, et que l'imagination des auditeurs est aussi importante que la nôtre. On va dire imagination, un journaliste qui parle d'imagination, ça risque d'être un journaliste qui n'expose pas là toutes les garanties d'objectivité requises, j'en parlerai sans doute tout à l'heure. Mais voilà, ça vient à l'intérieur de ça. Et c'est la raison pour laquelle on a rebondi. C'est la raison pour laquelle on s'est dit on ne peut pas arrêter dans ces coins. À cause de ça, à cause de ces soutiens, indignation, on s'est dit on ne peut pas laisser tomber. Et de toute façon, on ne pouvait pas laisser tomber tant cette suppression s'est faite d'une manière brutale, humiliante et, en un mot, imbécile. Et puis aussi parce que on est des journalistes, donc on continue, on ne s'arrête pas comme ça. Et que l'actualité, n'importe quel moment de l'actualité, nous donne envie de sortir de la tranchée et d'aller se battre, d'aller essayer de raconter, en espérant, comme toujours, que si on y va, si on y est, ça ne va pas se passer comme ça. Alors, si vous voulez...
T'as une question à me poser, non ?
Absolument.
Tu voulais dire quelque chose ?
J'ai coupé la parole. Absolument pas. Non, je te laisse terminer. Ce que je propose, c'est que dès que tu as terminé ta présentation, nous regardons le film qui lance le projet, et ensuite, il y aura de toute façon beaucoup de questions.
Voilà. Alors, je vous propose... Je vais évoquer un peu rapidement les choses. Après, je vous montrerai une brève vidéo, enfin qui fait quand même 28 minutes, une vidéo qui a été tournée lors de la soirée que nous avons organisée le 31 octobre à la Maison des Métallos à Paris, auquel ont participé un certain nombre d'amis de la Bastille. J'y suis pour autour de ce projet. Frédéric Lordon, Balbastre, il n'est pas dans le film d'ailleurs, Balbastre, vous l'avez déjà assez souvent ici, je pense. Voilà, vous remplacerez. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'invités qui étaient là.
Excusé ce soir.
Voilà, il s'est excusé. Et puis Jean-Luc Mélenchon, vous allez voir, ce que vous allez voir là a été le point de départ d'une polémique entre l'actuelle matinale, le responsable de l'actuelle matinale de France Inter et Mélenchon. Il y a aujourd'hui des précisions sur le site Acrimed. Mais je vais revenir un petit peu rapidement, parce qu'on ne va pas passer des années là-dessus, mais quand même sur la suppression de cette émission, la suppression de ce que François Ruffin, on en parlait, puisqu'on n'est pas loin d'Amiens, appelle une anomalie. La Basse-Égypte, effectivement, était une anomalie. Et les raisons qui ont été invoquées pour la suppression de cette émission sont tellement fallacieuses que tout de suite, on a vu, tout le monde a compris, aperçu qu'il s'agissait évidemment d'une décision de nature politique, idéologique, à l'encontre de cette émission. La conclusion hâtive qu'on peut faire, c'est qu'on est dans un pays, je le disais tout à l'heure, où on peut contester, on peut protester, on peut appeler à la révolution, tant qu'on reste dans un bac à sable, hein, tant qu'on est inoffensif, ça va. Mais si par malheur, on sort de ce cercle dévolu et dessiné à l'intérieur duquel ces voix discordantes et dissidentes peuvent s'exprimer, alors on risque gros. On a tenu quand même 25 ans, hein, voilà, avec 5000 émissions, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui ont tenu aussi longtemps, mais vraiment cette émission devenait trop dissidente et trop populaire à la fois, pas aux yeux de tous, pas aux yeux de toutes les directions. Dès qu'on avait des directions qui étaient des directions de journalistes, je pense à Jean-Marie Cavada, je pense à Jean-Luc Hesse, qui sont des gens que vous connaissez, mais vous voyez bien que si vous connaissez un peu la ligne éditoriale de la base où j'y suis, on ne peut pas dire qu'il y a concordance, hein, entre Jean-Marie Cavada et nous, non. Hesse, voilà, on ne sait pas quelle est la... Mais ce sont des journalistes et qui fonctionne avec le principe de « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais alors c'est pas je me battrai pour que vous puissiez le dire, mais je considère que cette voix-là, cette manière de voir, a sa place sur une radio de service public, parce que c'est une des formes de la sensibilité française et une des traditions, on peut dire, des regards, des analyses et ça met sa place. La direction actuelle, quand on résume tout ça à l'actuelle directrice de France Inter, c'est lui donner beaucoup de responsabilités. Il y a une présidence à Radio France, il y a un président, il y a un directeur général, et la décision, c'est eux qui l'ont prise. Ces décisions, je rappelle que l'actuel président de Radio France a dit « moi je ne suis pas journaliste, moi je ne suis pas un homme de radio, je suis un manager ». Voilà. Donc l'émission a été supprimée, les arguments, je disais, qui ont été avancés sont tout à fait fallacieux. Il y a eu deux arguments, c'est de dire Daniel est quand même, il est plus très frais et il a des heures de vol.
On a la preuve que non.
J'attendais quand même. Alors, étant CDD depuis 1976, je ne suis pas concerné, quelqu'un qui est en CDD n'est pas concerné par la limite d'âge. Voilà, de même que Christine O'Krent, qui en est jumeau, on a le même âge, elle opère c'est pas toujours délicat de dévoiler l'âge des femmes, mais enfin, sur France Culture, elle a une émission, et elle n'est pas concernée par la limite d'âge, on voit que cet argument est fallacieux. L'autre argument, encore plus fallacieux, c'était l'audience de la base J'y suis qui aurait été en baisse. Alors ça, c'est particulièrement mensonger. Quand on a été placé en 2006 à cet horaire, l'audience était de 150 000. Et quand on a rendu l'antenne, enfin quand on a été viré, elle était de presque 500 000, de 480 000. Donc on a vraiment apporté des auditeurs sur cette tranche horaire, qui est une tranche difficile. Et des nouveaux auditeurs sont bel et bien arrivés, se sont accrochés à cet horaire. Où il y a eu une légère baisse, effectivement, c'était par rapport à une hausse considérable qui était au moment des élections de 2012. Toute l'antenne avait, comme à chaque élection présidentielle, connu une hausse considérable. Et effectivement, ensuite, la base J'y suis s'est légèrement tassée, mais beaucoup moins que l'ensemble de France Inter, qui, au mois de juin dernier, a connu, vous le savez, si vous suivez ça de près, une baisse historiquement bas. Donc, la mer est descendue, voilà, pour France Inter, et là-dedans, effectivement, la base J'y suis, comme toutes les émissions, a légèrement baissé. Donc, arguments mensongers venant de la part de, alors là pour le coup, de Laurence Bloch, qui était le bras droit, je ne sais pas comment on dit, la bras droite de Philippe Val, et qui a donc qui a sa part de responsabilité dans ces très très mauvais résultats, ceux de juin dernier, ce qui ne l'a pas empêché d'être nommé à la direction maintenant de France Inter. Donc il n'y a pas de rancune vis-à-vis de ceux qui ont de piètres résultats. Quant à Philippe Val, il est parti sans aucune critique avec 1 million d'euros d'indemnité pour le petite retraite chapeau. Mais ça va nous permettre de lire, je pense, bientôt des ouvrages de philosophie de grande qualité. Vous allez pouvoir découvrir, je pense, Kant et Spinoza dans pas longtemps, revus par Philippe Val, et peut-être aussi à nouveau Noam Chomsky, revu par Philippe Val. Voilà. Tout ça nous a donné envie tout de suite de évidemment de rebondir, de repartir. Et ben voilà, on s'est dit le net. Alors on avait déjà prévu un petit peu ça quand même. Hein. Il y avait un site qui était en construction, donc on en a hâté l'ouverture dès le mois de juin. On est parti sur ce projet en se disant, ça n'est pas un refuge, ça n'est pas une revanche, c'est une aventure nouvelle. Et je peux vous dire qu'au point où on en est aujourd'hui, c'est vraiment une aventure nouvelle. C'est vraiment une aventure nouvelle, on est en train de construire ce site en se calquant sur, il n'y a pas tellement d'exemples, le scénario de Daniel Schneiderman, qui en 2007 a connu à peu près la même histoire. Il s'est fait virer au mois de juin 2007. Dans l'été, il a fait, comme nous, une pétition. Et puis, à la rentrée de 2007, il a lancé une campagne d'abonnement, exactement comme nous. Et puis, il a ouvert, il a pu reprendre son émission au début de l'année suivante. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la même époque. Lui, c'était juste après l'élection de Sarkozy. Donc, il y avait une mobilisation peut-être plus grande pour le soutenir. Mais nous, ça marche très bien. On est très contents des résultats puisqu'on en est à 7000 abonnés, c'est-à-dire un peu plus du tiers de ce qui est nécessaire par rapport à ce projet. Donc, ça marche très bien, on est très contents. Si vous faites partie des abonnés, je vous remercie. Si vous n'en faites pas encore partie, je vous incite vraiment à le faire très rapidement parce que vous avez l'occasion, c'est pas si souvent, de participer à la création d'un média indépendant qui souhaite ne dépendre que des abonnements. Et là, il y a une occasion. Pendant 25 ans, 5000 émissions de la base où j'y suis, très souvent, on nous a dit « Oui, mais vous nous racontez des trucs, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux y faire ? Vous nous racontez des trucs qui se passent là. » Là, à votre niveau, vous pouvez y faire quelque chose, c'est-à-dire participer à la création de ce média. Très rapidement, il y a une idée qui a surgi, mais dès le début juillet, une idée qui a surgi, c'est celle de dire « mais qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, de particulier ?» Et très vite, c'est l'idée de faire un 7-9, de remplacer, de faire autre chose que le 7-9 qu'on entend. C'est une idée un peu cinglée, mais qui part d'un constat, c'est qu'effectivement, si vous écoutez les 7-9 qui existent, je pense que les étudiants en journalisme n'ont pas manqué de le faire et écoutent ça tous les matins soigneusement, tous les 7-9 que la radio, que leur transistor leur propose, et ils auront remarqué qu'il y a des différences entre le 7-9 de BFM RMC et puis celui de Voynchet sur Culture. Il y a des différences, mais c'est des différences de clientèle auxquelles on s'adresse. Mais sur le fond éditorial, on peut vraiment parler de pensée unique, surtout si on pense, si on compare les chroniques économie, on a vraiment une pensée unique. Et puis pas seulement, de façon générale, on a une sorte d'homogénéité éditoriale qui fait dire aux auditeurs, on aimerait bien entendre autre chose, et aux journalistes aussi. Tous les journalistes, c'est quand même incroyable, on voudrait bien produire autre chose, faire entendre autre chose. Mais à chaque fois, on se heurte
à la même évidence, c'est qu'il faut se lever tôt, c'est ce qui est pas. Mais c'est aussi tout un boulot. Ceux qui étudient ça et qui connaissent ce que c'est que la fabrication d'un 7-9, ça veut dire du monde, ça veut dire beaucoup de travail, ça veut dire toute une mécanique à mettre en place et des moyens effectivement relativement importants, puisque on a à Radio France 700 journalistes et une centaine pour France Inter, 50 à 70 sont mobilisés pour cette tranche le matin. Donc ça suppose du monde, ça suppose tout un travail de très grande précision, pas toujours très gratifiant d'ailleurs pour ceux qui le font, et ils le font bien, ces journaux sont bien faits, radiophoniquement, les méthodes de travail, tout ça c'est du beau boulot. Sauf que la plupart des gens qui le font ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais ça c'est un autre aspect qui est très fréquent dans ce foutu métier. Donc, notre prétention, notre ambition, elle est de... Alors on a trouvé cette formule, 799, voilà, et tout de suite, cette idée et cette formule a eu de l'écho. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Entendre autre chose, écouter autre chose le matin. Donc maintenant, voilà, on est obligé de le faire. Et on est en train de préparer ça. C'est pas simple, c'est pas simple du tout, c'est une sacrée mécanique, surtout qu'il va falloir faire dans la concision. D'abord, c'est un monde que nous connaissons moins bien que celui qui est le nôtre familièrement, qui est celui du reportage et du reportage en longueur. Là, on va vers les news, on va vers la concision, on va vers des mécanismes de travail qui ne sont plus seulement sur des personnalités, enfin il y a un encore man, mais autour il y a des journalistes beaucoup plus le plus modeste qui travaille de façon plus un peu plus dans l'ombre, etc. Enfin, c'est une autre façon de travailler et de fonctionner. Et alors on est en train de travailler là-dessus, quelle forme ça aura, quels seront les chroniqueurs, quels seront les reportages, qui viendra, etc. Mais c'est absolument passionnant. D'abord parce qu'on comprend ce moment crucial dans la fabrique de l'opinion, que sont ces 7-9. C'est le moment de l'écoute flottante, c'est le moment où on va de la salle de bain à la cuisine, machin. Ça, c'est là où il y a austérité, le modèle allemand, Poutine, machin. Ça flotte, tout ça. Et ça va directement dans la moelle épinière. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, là. Les filtres qu'on peut avoir d'habitude. Là, on ne les a pas parce qu'on est pris dans le truc. Et c'est là toute la puissance idéologique de la radio qui va directement. Qui fabrique vraiment l'opinion, qui fabrique de l'évidence, qui fabrique de la doxa. Il y a quelques années, Europe numéro 1 avait un slogan qui était « Europe 1, c'est naturel ». Et ce à quoi on a assisté, c'est à la naturalisation, d'une idéologie qui est l'idéologie néolibérale. Et au lieu de la présenter comme telle, pour dire voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous croyons, voilà... Nous croyons à telle doctrine économique, à telle doctrine politique, ce qui est tout à fait possible et louable. Tout ça s'est présenté d'une façon allant de soi, évidente, découlant d'une parole divine en somme, puisqu'elle est indiscutable. J'entends pas mon collègue Patrick Cohen dire « nous avons choisi de, selon nous ». Nous croyons que toute chose qui permettrait d'éveiller la critique chez chacun, là, ça n'irait pas directement dans la moelle épinière, parce que s'il dit qu'il croit que, s'il pense que, s'ils ont choisi que, ben moi, je choisis autre chose, je pense autrement, etc. C'est pas présenté comme ça. Hein. Ça date pas d'hier, ce que je vous dis là. Ça date pas d'hier. Tous les journaux télévisés du monde se présentent toujours de la même façon. Il y a toujours un écran, il y a toujours une map monde, et puis vous avez un personnage qui apparaît, un homme extraordinaire comme vous n'avez pas dans la vie, qui va bien peigné, impeccable, maquillé. Vous n'en voyez, il n'y en a aucun d'entre vous qui ressemble à un présentateur de télé ici. Et les dames, je suis désolé, mais c'est exactement la même chose. Et c'est des personnages qui vous disent des choses. Aucun ne vous dit « je crois que ». Nous pensons que nous avons choisi de vous dire ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose Je vous dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais je pense qu'on peut faire autre chose et dire autre chose. En tous les cas, voilà, on est parti dans cette direction.
Avec un petit bémol, puisque vous prenez l'exemple de Patrick Cohen, je ne sais pas si on m'entend, lui, je ne veux pas dire qu'il se réfugie, mais on pourrait le penser derrière les auditeurs. Il y a ces fameuses questions le matin, filtré, pas filtré, c'est tout le problème. Est-ce qu'on retrouvera cela dans la basse justice ?
La différence, c'est que nous, on a pendant des années, on avait au début de la basse justice un répondeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces imbéciles qui braillent dans ce répondeur ? C'est le peuple. C'est les auditeurs, c'est les vrais gens dans la vraie vie qui ne parlent pas la langue que je suis en train de parler, qui est celle c'est la langue médiatique que je suis en train de parler, hein, le son, le ton, le langage, etc. Mais c'est le langage de quelqu'un qui est 30 ans là-dedans. Mais les vrais gens ne parlent pas comme ça. Ils parlent comme sur le répondeur. La différence du répondeur, c'est que les auditeurs avaient l'occasion, sur une minute ou deux minutes, de s'exprimer. Et c'était nous qui choisissions. J'ai toujours dit, informer, c'est choisir. Donc, c'est nous qui choisissons les messages que nous faisons entendre. C'était tout à fait révolutionnaire, puisque ce qu'on appelle la participation sur ces radios, il est de « Vous êtes sur l'antenne, posez votre question. Monsieur, vous êtes sur l'antenne, posez votre question. » C'est pas « Donnez-nous une idée. Faites-nous part de votre expérience. »
On a sélectionné.
On a sélectionné les questions. C'est pas les réponses. Nous avons les réponses, vous avez les questions. C'est-à-dire que c'est la position du mirador. Nous sommes dans un mirador, nous voyons les choses de haut, nous venons, je l'ai dit, de très haut, de très loin, et vous pouvez poser vos questions. Donc on aura, dans ce 7-9, des interventions des auditeurs sous la forme de répondeurs, où ils pourront aussi bien poser des questions s'ils le souhaitent, mais aussi bien donner des informations, des analyses, ce qu'ils ont envie de dire. Et ce ne sera pas seulement sur l'actualité, ça pourra être sur des digressions, comme on le faisait sur le répondeur, des poèmes. Il n'y a pas que l'info dans la vie. Hein. Le but, il n'est pas... Il est... Pourquoi on allume le transistor le matin ? C'est parce qu'on veut être au courant, on veut se relier aux autres. On allume le transistor parce qu'on veut se relier aux autres et on veut être au courant. On veut être au courant. Ok, ça, mais l'info, ça commence après. Il y a être au courant, puis après, il y a être informé. Puis il y a passer de l'information à la réflexion, puis de la réflexion éventuellement à l'action. Ça, c'est cet enchaînement c'est ce que nous souhaitons produire. C'est ce que nous avons essayé de produire, et parfois avec succès, pendant toutes ces années de la basse justice. Donc voilà, les auditeurs auront une place. Autrement que ce qu'on entend actuellement, ce qui est drôle, c'est ce côté « intervenez », c'est le jeu de mots de la rentrée, très bien, on les entend encore moins.
Oui.
Parce qu'il y a un journaliste qui dit « Ah, alors on a un message de machin sur hashtag, truc, machin », et il dit que, mais c'est un journaliste qui dit qu'il remplace encore plus l'auditeur, c'est-à-dire que le son de l'auditeur, le son de tous ces corps qui sont là, est encore repoussé dans les cordes, alors que, je le rappelle, enfin faut-il le dire, évidemment, cette radio, cette merveilleuse maison de la radio, cette merveilleuse entreprise publique, nous appartient, voilà. Donc c'est encore plus relégué.
Je propose qu'on regarde cette vidéo.
D'accord.
Donc,
alors,
de la trappe à la toile.
De la trappe à la toile. Voilà, on a appelé ça comme ça. Vous allez voir. Donc, et après, effectivement, on pourra. Je répondrai à vos questions affûtées. J'en suis sûr.